Inutile de vous convaincre de l'importance de la communication. Vous la connaissez déjà. Je dois cependant vous persuader de sa portée. Vos propos ont un effet ondulatoire. Peu importe que vous estimiez être quelqu'un ou un moins que rien, vos propos ont un pouvoir qui dépasse tout ce que vous aurez l'occasion de voir dans votre existence. La manière dont vous vous adressez à votre collègue ou au vendeur d'un magasin influe sur la façon dont ils parleront à leurs amis et à leur famille une fois rentrés chez eux. Les propos que vous tenez à vos enfants vont influer sur la manière dont ils s'adresseront à leurs propres enfants. Vos paroles sont importantes dans l'instant présent, mais également pour des générations de personnes dont vous ne croiserez jamais la route, des personnes dont vous ne soupçonnerez jamais l'existence. La bonne phrase destinée à la bonne personne peut changer des vies. Les actes ont certes plus de poids que les mots, mais ne sauraient les remplacer. Vous ne pouvez vous qualifier de personne gentille si vous n'êtes pas gentil dans vos propos. Que disent vos mots de la personne que vous êtes? Les ondes se propagent sur l'eau bien après que la pierre a heurté la surface. L'état d'esprit que vous acquérerez grâce aux enseignements de cette première partie générera des effets positifs qui se répercuteront sur vos relations pendant toute votre existence, et ce, à de nombreuses reprises. Chapitre 1. Ne jamais remporter une dispute ou une discussion.
« Je ne vous fais pas du tout confiance » beugla-t-il.
En toute honnêteté, c'était un compliment. Dans sa salopette brun clair dotée d'un écusson ovale « Lapret » brodé sur la poche supérieure gauche, Bobby Lapret me lança un regard suffisamment noir pour tacher ma veste de costume. Généralement, je ne sais pas à quoi ressemble la personne avant de la rencontrer lors de sa déposition. Ce n'était vraiment pas l'image que je m'étais faite de Bobby Lapret. Assis dans la salle de conférence, à attendre l'arrivée des personnes concernées, je levai la tête et découvris une personne mi-homme, mi-géant. Avec sa carrure, il occupait tout l'encadrement de la porte. Naturellement, je me levai et me dirigeai vers lui pour lui serrer la main et me présenter. « Jefferson Fisher », dis-je en souriant. « Bobby », marmonna-t-il. Bon, avec mon bon 1m80, je ne suis pas petit. Mais ma tête arrivait à peine à la hauteur de la poitrine de Bobby Lapret. C'était un vrai colosse. La pression extrême exercée par son énorme main calleuse laissa son empreinte sur la mienne. On aurait dit une scène de Tom et Jerry. Je ne m'étais jamais retrouvé face à une personne aussi impressionnante physiquement. Cette affaire portait sur une bagarre ayant éclaté dans un bar, et je représentais une personne impliquée dans l'échauffourée. Je devais recueillir la déposition de Bobby Lapret, témoin des événements. Lors d'une déposition, je dois poser des questions aux personnes qui interviennent sous serment, généralement pour découvrir ce qu'elles savent avant leur témoignage au procès. À la table de la salle de conférence avait pris place, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la greffière, Bobby Lapret, l'avocat de la partie adverse et moi. La greffière demanda à Bobby de lever la main droite et le plaça sous serment, puis elle fit son signe de tête habituel pour m'inviter à commencer. J'ai posé à Bobby Lapret les questions d'usage pour recueillir des informations personnelles et l'origine du déclenchement de la bagarre. Il s'agissait de questions ouvertes et très simples. À quelle heure êtes-vous arrivé? À qui avez-vous parlé en premier? Avez-vous vu ou fait ceci et cela? Ce genre de questions est courant pour établir la chronologie des événements en se plaçant du point de vue d'un témoin. J'ai bien veillé à me montrer toujours gentil et poli, à 90% parce que c'est ma personnalité et à 10% par instinct de survie. Ce n'était pas le genre de type que j'avais envie de contrarier. Au fur et à mesure des questions simples que je lui posais, l'agitation de Bobby Lapret s'accrut. J'avais assisté suffisamment de fois à ce phénomène pour m'en rendre compte. Ses sourcils bruns se sont mis à se froncer à chaque réponse qu'il fournissait, signe d'une émotion négative. Il respirait de plus en plus fort, expirant tantôt par le nez, tantôt par la bouche, signe de l'augmentation de son niveau de stress. Il a commencé à se triturer les mains en parlant, attitude caractéristique d'une certaine anxiété. On aurait dit que ma simple présence dans la salle l'offensait. Plus Bobby Lapret paraissait contrarié, plus je sentais la tension croître autour de la table, comme si le ballon de baudruche que je gonflais était sur le point d'exploser. Je finis par lui demander « Monsieur Lapret, souhaitez-vous faire une pause ?» Le silence se fit dans la salle. « Non, » répondit Bobby Lapret, après s'être éclairci la gorge. « Mais j'ai quelque chose à dire. » Il s'exprima d'une voix plus forte que nécessaire, à tel point qu'il fit sursauter la greffière. Je jetai un coup d'œil rapide à l'autre avocat qui avait au moins 65 ans. Il avait l'air plus nerveux que moi. Lorsque nos regards se croisèrent, il écarquilla les yeux en secouant lentement la tête comme pour dire « Si cela dégénère, vous vous retrouverez tout seul. » Je me retournai pour regarder mon témoin. « Monsieur ?» lui demandai-je. Bobby Laprée prit une grande inspiration.
« Vous pouvez arrêter de jouer aux meilleurs potes. Vous, les avocats, vous êtes ce qu'il y a de pire pour les États-Unis, » poursuivit-il. « Vous ne faites que mentir. »
Il aplatit sa main sur la table, puis la releva en me pointant du doigt et en disant
« Alors continuez et posez-moi vos questions stupides. Sachez simplement que je ne vous fais pas confiance. Je vous le dis, les avocats sont ce qu'il y a de pire pour ce pays, »
répéta-t-il. La greffière me lança un regard très inquiet. À ce moment précis, mille idées me traversèrent l'esprit. Tout d'abord, je suis très bien habitué à ces stéréotypes dépréciatifs des avocats, surtout ceux spécialisés dans les dommages corporels. Je m'efforce de lutter contre, même si, pour être honnête, certains avocats méritent vraiment cette réputation. Par conséquent, une blague désobligeante ou une remarque sarcastique sur mon métier n'a rien d'une nouveauté. Je comprenais cela. Ensuite, je ne lui ai pas reproché de ne pas me faire confiance, non pas parce que je souhaitais l'induire en erreur, mais parce qu'à ses yeux, je représentais tous les mauvais côtés qu'il pensait connaître ou dont il avait entendu parler sur la loi, les avocats et le système. Bien entendu, il n'avait aucune raison de me faire confiance. Je comprenais. Ce sont les questions stupides qui m'ont touché. Je sais pertinemment que je fais de nombreuses choses stupides chaque jour, mais je ne pose pas de questions stupides. À cet instant, une vague de colère me submergea. Je sentis tout mon corps se tendre. J'avais chaud aux oreilles et je me remis d'aplomb sur ma chaise. J'étais en train de me mettre sur la défensive. Jusqu'alors, mes questions n'avaient rien eu de profond. Elles n'avaient pas été compliquées ni gênantes. Stupide. Je vais lui montrer, moi, me dis-je. J'avais envie de sortir un bon mot sur le rapport entre son gabarit et son intelligence. Quelques mots cassants bien envoyés, et je prendrai le dessus sur lui. J'essayais de me dire que sa réaction me suffisait pour savoir qui il était vraiment. Mais il m'est déjà arrivé de me tromper par le passé. Quand j'étais en CE2, mon école a lancé un programme de lecture associant des élèves sachant déjà bien lire à d'autres d'un niveau plus faible. Voilà comment je me suis retrouvé avec Evan. Deux fois par semaine, nous prenions place sur des poufs à la bibliothèque. Je l'écoutais lire à grand-peine, à voix haute, des livres tels « Course brun, dis-moi ce que tu vois » de Bill Martin Jr. Evan était bien plus grand que moi. À l'époque, je n'arrivais pas à comprendre qu'il puisse être si grand et ne pas savoir lire. Quand il tombait sur un mot qu'il ne connaissait pas, je devais l'aider à le prononcer distinctement. Mais il avait tout de même du mal. J'ai donc trouvé des moyens de lui expliquer autrement les choses. Par exemple, en associant les mots à des expressions mémorisables ou en créant des métaphores grâce à des éléments qui figuraient autour de nous. J'avais le chic pour trouver des astuces en rapport avec les centres d'intérêt d'Evan, ce qui permettait de rendre des concepts complexes plus faciles à mémoriser. Parfois, nos séances de lecture se déroulaient lors de la pause déjeuner. Pendant que je sortais mon déjeuner d'un sac en papier marron, sur lequel ma mère avait dessiné le visage d'un petit bonhomme qui sourit, un enseignant lui apportait un plateau provenant de la cafétéria. La mère d'Evan ne lui préparait pas son déjeuner. J'ai commencé à remarquer que ses vêtements ne semblaient jamais lui aller, comme s'ils étaient trop grands de trois tailles. Un jour, alors que nous travaillions sur le verbe « lancer », j'ai essayé de l'aider en imaginant qu'il lançait une balle à son père. Evan répondit d'un ton monotone « Je ne connais pas mon père. » Je me souviens très nettement avoir eu le sentiment que ma bouche s'était figée. Je suis resté sans voix. Cela m'a déchiré le cœur. J'ai appris par la suite qu'il vivait chez ses grands-parents. Son père était parti peu de temps après sa naissance et sa mère était en prison. Mais à l'époque du CE2, je n'avais pas connaissance de sa situation. Je n'avais pas la moindre idée des difficultés auxquelles il était confronté. Ayant deux parents aimants qui me racontaient des histoires à l'heure du coucher, je ne connaissais rien de son monde. Au cours du premier semestre, le niveau d'Evan s'est amélioré à chaque séance de lecture, et il a fini par savoir lire tout seul. J'en étais très fier. La découverte des luttes intérieures d'Evan a été un autre moment majeur de mon enfance et une leçon que j'ai toujours gardée en tête. Me montrer sarcastique envers l'immense Bobby n'aiderait en rien. Cela ne pourrait être que néfaste pour la déposition. Et mon visage. En outre, mon client avait besoin de ces informations. « Fais profil bas », me dis-je. J'inspirai longuement par le nez et relâchai la tension dans mes épaules, puis mon envie de représailles s'évanouit. Ce qui m'interpella cependant, c'était le caractère disproportionné de sa réaction.